Anna Shapiro, que je remercie vivement avec Rosa pour l'organisation de cette nouvelle rencontre donc consacrée à la clinique de la postmodernité. Anna donc prétend que, lorsqu'elle m'a demandé le titre de ma communication, je lui aurais répondu « Bambi le symptôme ». Alors, que Anna se rassure, je ne mets nullement en doute sa parole, mais je pense qu'il n'y a qu'une chose qui puisse expliquer que j'ai donné un titre si bizarre, c'est que j'avais probablement dû prendre ma caipirinha avant qu'on en discute. Et quand je me suis rendu compte de ce titre bizarre que j'avais donné, c'était trop tard. Le mal était fait, le titre était donné, les rotatives tournaient et l'information était déjà diffusée. Alors, le résultat de tout cela, c'est que je dois maintenant assumer ce titre bizarre, quoi qu'il en soit. Alors j'essaierai de le faire comme l'enseigne toute bonne science rhétorique, en commençant par dire que cela n'a évidemment rien de bizarre. Il suffirait que, par exemple, j'évoque les grands ancêtres. Par exemple, un texte de Lacan. À vrai dire, c'est une conférence qui a été prononcée en 1975 dans le grand amphi de la Sorbonne et qui s'intitulait justement « Joyce, le symptôme ». Alors bien sûr, on me dira que Joyce, le grand romancier du XXe siècle, d'accord, mais Bambi, le héros de Disney World, on me dira, est-ce que tu es sûr que cela est bien sérieux pour parler de la postmodernité? Eh bien, puisque je suis si mal parti, je n'ai plus qu'à essayer de continuer en tentant de démontrer que oui, que c'est une bonne façon de parler de la postmodernité. Tout d'abord parce que il faut admettre qu'on a aujourd'hui les héros que l'on peut. Hier, ceux grands ancêtres dont je parlais à l'instant, ceux qui faisaient de la clinique, s'emparaient de grands personnages contemporains et ils essayaient à travers eux de dire quelque chose de leur époque. Je pense par exemple à un dénommé Freud. Lui, Freud, une de ses marottes, c'était les présidents. Les présidents comme personnages bizarres. Le président Schreber, par exemple, qui reste le modèle freudien de l'approche de la psychose. Et puis, le président Wilson, qui fut président des États-Unis pendant deux mandats, de 1913 à 1921. L'histoire retient du président Wilson, qui était pacifiste, au point de garder les États-Unis en dehors du conflit mondial pendant les trois premières années de cette première guerre mondiale. Et qu'il a envoyé ensuite des troupes en Europe à contre-cœur, qu'il a ensuite lancé l'idée de l'instance d'une instance de coopération internationale, la Société des Nations, et enfin, dernier trait, que Wilson était un peu fou. Il était un peu fou parce qu'il s'identifiait volontiers au père, au grand chef, et même à Dieu. Toute identification qui ont largement influencé sa vie de chef de l'État et ses décisions politiques. Et c'est d'ailleurs à ce titre que Freud lui a consacré une étude au début des années 30, mais qui n'est parue qu'ensuite, au cours des années 1960, étude qui s'appelle « Le président Thomas Woodrow Wilson, portrait psychologique ». Si je parle de ceci, c'est parce que il y a une indication textuelle dans ce texte qui m'intéresse beaucoup et que je vais vous lire, c'est une petite merveille. Écoutez bien. Les fous, les visionnaires, les hallucinés, les névrosés et les aliénés ont de tout temps joué un grand rôle dans l'histoire de l'humanité. De tels êtres ont exercé une influence incalculable sur leur époque et celles qui ont suivi. Ils ont lancé d'importants mouvements culturels et fait de grandes découvertes. Ils l'ont pu grâce d'une part à la partie intacte de leur personnalité, c'est-à-dire malgré leurs anomalies, mais d'autre part, ce sont précisément leurs traits pathologiques, les traits pathologiques de leur caractère, l'asymétrie de leur développement, le renforcement anormal de certains désirs, l'abandon sans réserve ni discernement à un but unique, dit Freud, qui leur a donné la force d'entraîner les autres à leur suite et de vaincre la résistance du monde. C'est intéressant, hein, pour le rôle éminent des hallucinés et des fous dans l'histoire des autres hommes, des braves névrosés comme vous et moi. Et Freud conclut en disant ceci, les grandes œuvres coïncident si souvent avec des anomalies psychiques que l'on est tenté de croire qu'elles en sont inséparables. Alors ça, c'était pour Freud aux prises avec un grand personnage. Mais je pourrais aussi vous parler de Lacan et de l'étude de Lacan sur les sœurs Papin. Les sœurs Papin, elles n'étaient pas seulement un peu folles, mais beaucoup. Je vous en dis en deux mots, si vous ne connaissez pas l'histoire, elles étaient des employées de maison modèles, parfaites, et cependant, elles ont été l'auteur d'un double meurtre sur leur patronne, un beau jour de 1933. Et c'était un meurtre particulièrement violent, puisque les sœurs Papin sont allées jusqu'à, les braves et gentilles sœurs Papin, sont allées jusqu'à arracher les yeux de leur patronne et en faire des choses épouvantables. Ce fait divers tragique, c'est devenu l'affaire Papin, qui a tenu la France entière alors en haleine, des couches populaires jusqu'au milieu littéraire et intellectuel. Les saints exigeant la mise à mort immédiate des deux sœurs et les autres mettant plus ou moins ce crime en relation avec l'exploitation des classes laborieuses. Et l'affaire a inspiré de nombreux auteurs, par exemple Lacan, qui a écrit immédiatement après, en 1933, c'est un de ses premiers textes, un texte intitulé « Motif du crime paranoïaque, le double crime des sœurs Papin », où se pose la question de la possibilité d'une nouvelle forme de folie, qu'on pourrait appeler la folie à deux. Donc voilà, chacune de leur côté, elles sont à peu près normales, névrosées, disons, et à deux, elles sont archi-folles. Folie à deux. Et puis, entre autres auteurs, il y a eu aussi le grand homme de théâtre, de lettres et de théâtre, Jean Genet, qui a écrit une dizaine d'années plus tard une pièce de théâtre intitulée « Les Bonnes », qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc vous voyez que, après tout, si je me réfère à nos grands ancêtres, mon titre, Bambi le symptôme, n'est peut-être pas si excentrique au premier abord qu'il peut paraître. Si je dis Bambi le symptôme, c'est parce que je crois que l'analyse de ce cas, parce qu'il s'agit bien d'un cas, pourrait nous dire quelque chose sur l'époque postmoderne, justement. D'autant que des études de cas, aujourd'hui, nous en avons de moins en moins. Et je le regrette beaucoup pour ma part, Et je ne cesse de le dire aux psychanalystes que je rencontre. La dernière fois, c'était juste avant de venir au Brésil, lors d'une rencontre avec Charles Belmont, où je lui disais pourquoi est-ce que les psychanalystes ne publient plus de cas. Alors qu'on dit qu'il y a une nouvelle économie psychique, par exemple dans la postmodernité, ça serait extrêmement important d'aborder cette nouvelle économie psychique à travers un certain nombre de cas. C'est-à-dire des cas cliniques ou des cas historiques, puisqu'il y a deux types de cas, dans ce que vous avez entendu, qui se renseigneraient sur la psychopathologie aujourd'hui. J'étais fort proche, grand ami du psychanalyste et clinicien, grand clinicien Serge Leclerc, mort en 1994, et je peux même vous dire qu'il m'a indiqué, alors que je ne le savais pas moi-même, et pourtant j'aurais bien dû le savoir, ce sur quoi j'étais en train de travailler. Il m'a fait savoir sur quoi j'étais moi-même en train de travailler, que moi-même je ne savais pas. Il m'a fait savoir que j'étais en train de travailler sur la postmodernité et la reconfiguration symbolique et psychique que la postmodernité implique. Mais si je vous parle de Serge Leclerc maintenant, c'est pas seulement pour vous dire qu'il me manque. Je veux dire qu'il nous manque. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il nous manque ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a été le dernier grand psychanalyste à nous avoir donné à lire, non pas de simples vignettes cliniques, mais de magnifiques cas. Par exemple, dans deux livres qui s'appellent « Psychanalyser » et « Démasquer le réel ». Il a été le seul, ou presque, parmi les lacaniens, puisque c'était celui qu'on appelle le premier des lacaniens, à s'être autorisé, disons, à franchir, à braver, à mettre au défi le refus implicite du maître, Lacan, à l'écart de l'écriture de cas cliniques. Je vous ai dit les sœurs Papin, on trouve bien sûr chez Lacan quelques cas historiques, mais on ne trouve pas en effet chez Lacan un cas digne de ce nom dans les milliers de pages d'écrits des séminaires de Lacan. Lacan ne voulait pas que on travaille sur des cas cliniques. Et Leclerc, qui était le premier à faire son analyse avec Lacan, était un des seuls qui s'autorisait à faire ce qu'il avait envie de faire, et aussi bien à braver le maître quand il y avait lieu. Mais comme toujours, pour braver le maître, il faut se le permettre. Autrement dit, il fallait écrire des cas vraiment magnifiques. Et ceux de Leclerc le furent. Ils le furent d'une part parce que la belle écriture littéraire, c'est celle qui sait manier la plus fine nuance. Eh bien, cette belle écriture littéraire a servi chez lui la très grande précision clinique. Et d'autre part, parce que ce qui, dans chaque cas, s'énonçait comme une singularité absolue, est parvenu à rencontrer et à expliquer quelque chose de l'époque. Et je crois d'ailleurs que ce n'est pas un hasard si des grands philosophes des années 60 et 70, je pense par exemple à Derrida, à Deleuze et à d'autres, ne s'y sont pas trompés parce qu'ils étaient tout simplement des grands lecteurs des cas de Leclerc. C'était pour eux, je crois, un moyen privilégié d'accéder au déploiement, disons, destinal, historial, de l'aventure humaine. Alors, je dis ça, mais je sais bien qu'on peut aussi comprendre la position de Lacan, qui répugnait à utiliser ce qu'il appelait la carte forcée de la clinique. La carte forcée de la clinique, c'est quand vous jouez aux cartes, et bien vous êtes forcé de jouer cette carte. Et simplement, le fait d'être forcé de jouer une carte, ça l'embêtait beaucoup, Et il disait qu'il y avait plus de sens à ne pas jouer cette carte forcée qu'à la jouer. Donc, on peut comprendre, parce qu'il craignait en effet deux effets que l'on pourrait dire rapidement pervers lors de la réalisation des études de cas. L'une est relative au rédacteur du cas, et l'autre effet pervers, est relatif au destinataire. D'une part, en effet, un cas peut toujours être présenté de telle sorte qu'il puisse justifier tout ce que son rédacteur entend démontrer. Tout et n'importe quoi. Et d'autre part, il peut susciter chez le destinataire, chez le lecteur du cas, des effets imaginaires de tous ordres, comme par exemple la fascination ou la répulsion. Il est clair que ces craintes sont tout à fait justifiées, mais il faudrait demander à Lacan en quoi le discours théorique ou métapsychologique pur qui évacue la présentation de cas cliniques, premièrement, en quoi il échapperait davantage au risque de vouloir démontrer tout ce qu'on entend démontrer, et deuxièmement, en quoi il serait nécessairement exempt de la production, ce discours théorique, de la production d'effets imaginaires. Si on ajoute à cette réserve que l'absence de véritables cas, avec leur systématicité, se solde souvent par l'usage intempestif, lors de journées d'études ou de rencontres, de vignettes cliniques ad hoc, qui surgissent comme ça, parce qu'on en a besoin, plus ou moins allusives, je dirais assez suspectes de s'avérer un peu trop commode pour être vraiment honnête, on admettra alors que la question de la présentation de cas n'est pas vraiment décidable. Ce que je veux dire, de mon point de vue à moi, c'est-à-dire de mon point de vue de philosophe, c'est que les études de cas me manquent, et je crois qu'elles nous manquent aujourd'hui, alors qu'on avance en terrain mal connu, et qu'il faut bien fixer en ce moment exploratoire, ne fût-ce qu'à titre provisoire, quelques traits, sachant bien sûr que ceux-ci sont toujours ouverts à la discussion critique et à l'interprétation. J'ajouterais que cette carence en matériel clinique est d'autant plus regrettable que des propositions majeures ont été avancées ces dernières années, tendant à accréditer l'idée qu'il y a eu quelque chose comme une mutation anthropologique et que nous sommes passés dans une nouvelle économie psychique spécifique de la postmodernité. Ça peut s'énoncer de plusieurs façons, mais enfin ça se dit. Or, comment soutenir ces hypothèses sans présenter le moindre cas ? Bref, donc c'est ce manque que je vais m'efforcer d'affronter avec les moyens du bord. En d'autres termes, je vais tenter de suppléer à l'absence de cas cliniques, correspondant à l'absence de cas historiques aussi, correspondant à cette supposée mutation, en instruisant un cas, ou plutôt une sorte de cas, qui pourrait être assez significatif de cette nouvelle cité postmoderne dans laquelle nous vivons désormais. Ça sera donc le cas Bambi. Voilà mon cas, le cas Bambi. Mais qui est Bambi, me demanderez-vous ? Eh bien, je voudrais vous montrer qui est Bambi. Celui-ci, lui. Voilà Bambi. Bon. Bon, bidon, je vous le présente. Ou je vous la présente, je ne sais trop comment le dire, à vrai dire. Bambi, c'est le héros du 5e long métrage de Walt Disney, qui est sorti à New York en 1942. Et Bambi raconte l'histoire d'un faon. Un faon, c'est un petit de dinde, ou un petit de biche, ou un petit de chevreuil, qui, avec ses amis, le putois, le premier fleur, et le lapin Pampan, devient prince de la forêt. Et si j'en parle, c'est tout simplement parce que Bambi, c'est aussi le surnom qui a été donné à Michael Jackson. Et que, comme vous le savez, Michael Jackson était non pas le prince de la forêt, mais le roi de la pop, c'est son autre surnom. Et si j'en parle, c'est parce que il est mort il y a 2 mois, et que ça a fait événement dans notre cité postmoderne. Ça a même déclenché l'un des plus fantastiques événements médiatiques de tous les temps. Alors je crois que ça vaut qu'on s'y arrête. Et jugez-en par vous-même. À l'annonce de la mort de Bambi, Michael Jackson, de nombreuses personnes se sont rassemblées spontanément dans le monde pour lui rendre hommage dans les capitales. Et les membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont immédiatement observé une minute de silence en son honneur. Google, le moteur de recherche, s'est vu submergé de requêtes Michael Jackson, à un point tel que Google a cru d'abord à une attaque de spammer. Une attaque de son site. Pendant plusieurs jours, le sujet a connu le plus haut niveau d'intérêt jamais atteint dans l'échelle de Google, qui a maintenant une dizaine d'années. Le plus haut niveau d'intérêt. Par exemple, du jour au lendemain, l'écoute des musiques de Michael Jackson, sur un site de musique bien connu comme MusicMe, a augmenté de 949%. 1000%. Durant les semaines suivantes, les ventes de disques de la star ont atteint des sommets, des pics inattendus, ce qui a induit une rupture de stock parmi les plus grandes chaînes de ventes. Et parallèlement, les principaux classements musicaux de ces albums et de ces singles ont été relancés et ont atteint à nouveau le premier rang des hit parades. Et certains singles ont même dépassé les chiffres qui avaient été établis lors de leur sortie officielle. Figurez-vous que le site internet qui a enregistré les demandes de billets pour assister à la cérémonie en hommage à Michael Jackson, prévu donc une semaine après sa mort à Los Angeles, a connu des centaines de millions de connexions en moins de 2 heures. On a alors ajouté à la hâte des serveurs supplémentaires afin de gérer l'incroyable volume du trafic. Et à midi, le site avait reçu 500 millions de connexions. Il y a donc 500 millions de terriens qui se sont immédiatement intéressés à ceci pour participer, pas un événement mineur, à la cérémonie d'adieu à Michael Jackson. Puis après, on dit 500 millions, mais après c'est tombé en panne, donc, parce qu'il y en a eu peut-être encore beaucoup plus. Et cette cérémonie a été suivie en direct de par le monde. par 1 milliard de personnes à la télévision. C'est quand même 2 fois mieux que la princesse Diana en 1997. Ce fut l'occasion d'événements au même moment sur les 5 continents. À Hong Kong, à Tokyo, à Bucarest, à Berlin, à Paris. Par exemple, à Berlin, il y a une salle de 17 000 places qui retransmettait la cérémonie. Et au même moment, par exemple, c'est que des choses un peu éparses, mais significatives, par exemple, à Santiago du Chili, la relève de la garde au palais présidentiel de la Moneda a été effectuée au son de la chanson « We are the world ». Etc, 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 etc. Alors la question que je me pose donc, c'est de savoir au juste ce qu'une telle foule immense déplorait au juste en pleurant son mort, en pleurant ce mort. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'à travers lui, Bambi, Michael Jackson, cette foule pleurait sur son sort. Cette foule pleurait son propre sort. C'est quelque chose de cet ordre-là que le nouveau ministre de la Culture en France, connu pour ses envolées lyriques au moment de ses célébrations tragiques de la vie des princes et des princesses et des stars, a souligné à sa façon en disant, je cite, parole de ministre de la culture postmoderne, comme vous allez l'entendre, on a tous un peu de Michael Jackson en nous. Lui disait cela avec enthousiasme, évidemment pour s'en réjouir, il était content, ému. Je dis la même chose, mais permettez-moi pour ma part de dire cela pour m'en étonner légèrement. On est tous un peu quelque chose de Michael Jackson. Alors, je sais bien que disant cela, je risque d'apparaître comme un traître à la cause sacrée de la multitude, mais que voulez-vous, c'est comme ça, le philosophe est celui qui s'étonne devant les croyances et devant les certitudes des foules. Autrement dit, je dis que si les foules se sont reconnues en Bambi, c'est que Bambi exhibait quelque chose du symptôme de ces foules. Je tiens donc Bambi pour un cas exemplaire de notre postmodernité. Pourquoi ? Eh bien parce que Bambi le bambin, en français ça fonctionne bien, le bambin c'est l'enfant hein, en français. Parce que Bambi, c'est celui qui est resté installé dans l'enfance. Cette enfance qui se caractérise de ne pas connaître, voire même de ne rien vouloir savoir au fait qu'il faut renoncer à toutes les potentialités, tous les possibles, pour en abandonner certains, et pour en cultiver d'autres afin de devenir adulte. L'enfant, c'est celui qui a toutes les potentialités, et l'adulte, c'est celui qui en a abandonné beaucoup, pour n'en cultiver que quelques-uns. Ça veut dire donc que l'enfant est bien l'être de tous les possibles. Mais ça veut dire aussi que l'adulte est celui qui a renoncé à certains possibles afin d'opter pour d'autres. Autrement dit, l'enfant est un être sans limite, et c'est ce qui fait son charme irremplaçable. Cependant que l'adulte est un être qui développe une seulement, ou quelques potentialités au détriment d'autres. Et c'est ce qui fait son adultéité. C'est moins beau que l'enfant, mais ça donne autre chose. Alors vous pouvez compter chez Bambi Michael Jackson, des possibles, il a été celui qui n'a renoncé à aucun. Il est celui qui a refusé toutes limites. Il est en effet tout à la fois. Il est jeune et vieux, il est enfant et adulte, il est noir et blanc, il est homme et femme, et il est même ange et démon. Bref, il est resté enfant parmi les enfants. Et bien sûr, au cours de ces chorégraphies, on le voit souvent palper ce morceau de chair adulte qu'il semble posséder entre les jambes, comme en s'étonnant qu'il y ait là quelque chose. Mais apparemment, il n'a jamais réussi à en faire de meilleurs usages que de s'en servir pour jouer à touche-pipi, comme on dit en français, avec d'autres enfants. Donc c'est un enfant. Or, comment voulez-vous qu'un enfant fasse des enfants? Pour qu'il fasse des enfants, il aurait fallu qu'il opte pour une assignation sexuelle, d'un côté ou de l'autre. Qu'il soit en somme devenu adulte. Autrement dit, un qui a renoncé à la toute-puissance sans limite de l'enfance. Et ce qui est très remarquable dans tout cela, ce n'est pas tant le côté, disons, clinique de Michael Jackson, c'est le fait que ça corresponde si bien à l'époque. Parce que c'est l'époque qui veut ça. C'est l'époque qui provoque ça. Autrement dit, nous vivons dans une époque qui promeut l'existence d'êtres sans limites. Je me permets, sur ce point, de vous renvoyer à mon dernier livre traduit au Brésil, Le Divin Marché, où je crois montrer que le marché en question fonctionne justement comme une religion, en ce sens qu'est pensable comme religion, ce qui fait une promesse. Pas de religion sans promesse. La religion est toujours ce qui fait une promesse. Une promesse d'en finir avec une limite propre à l'humain. Voyez par exemple comment les religions dites du livre, judéo-christiano-musulmanes, donc comment les religions, les grandes religions du livre, font la promesse d'en finir tout simplement avec la vieille limite humaine de la mort. Ces religions ont dit, vous allez mourir, mais après, si vous avez été bon croyant, vous aurez accès à la vie éternelle. En voilà une belle promesse. À mon avis, si ces religions ont tenu longtemps, c'est tout simplement parce que personne n'est jamais revenu de la mort pour dire aux autres, écoutez les gars, ça marche pas du tout. Personne n'est jamais revenu pour nous dire que ça marche. Autrement dit, ces religions fonctionnent parce que personne ne peut prouver que la promesse qu'elles font, c'est, comme on dit en français, du bidon, du pipeau, des histoires. Du coup, comme personne ne peut le prouver, ça continue. Mais bon, il n'y a pas que ça comme religion. Je crois avoir justement découvert qu'il y avait d'autres religions à notre époque. Notamment, celle dont je parle, qui est de plus en plus puissante, et celle qui vous promet qu'elle peut tout vous donner, c'est-à-dire tout objet manufacturé, tout produit, tout service marchand, tout fantasme même, susceptible de satisfaire toutes vos appétences pulsionnelles pour vous combler. Si le marché est devenu divin, c'est parce qu'il fonctionne justement comme une promesse de satisfaction pulsionnelle généralisée. La puissance de notre économie, non plus en tant qu'économie symbolique, mais en tant qu'économie marchande, c'est justement de promettre à chacun la satisfaction pulsionnelle en proposant une gamme toujours plus grande d'objets et de services. Et c'est sur cette promesse de satisfaction pulsionnelle totale que fonctionne et que s'est développé le libéralisme jusqu'à l'ultralibéralisme que nous connaissons de par le monde aujourd'hui, comme significatif de cette époque postmoderne, de l'économie de cette époque postmoderne. Peu importe donc que cette promesse de satisfaction généralisée détruise à l'occasion le monde, pourvu que cela satisfasse mes rêves, y compris mes rêves d'enfant tout puissant, qui pourra être blanc quand il est noir, jeune quand il est vieux, femme quand il est homme. On a là la figure de l'ange postmoderne. Voilà, ça serait ça, Bambi, l'ange postmoderne. L'ange démoniaque postmoderne. Cette figure avec laquelle Michael Jackson aura si bien joué pour séduire, que dis-je, pour conquérir les forts et foules actuelles en leur donnant ce qu'elles souhaitaient tant. Au titre de ces objets censés assurer la satisfaction fusionnelle, je compte la technique. Rien ne doit plus empêcher, quand on en a les moyens, de devenir blanc quand on est noir et de faire des enfants quand on est enfant. Ce qui garantit l'absence de limites à toutes mes passions. C'est quoi ? Ce qui garantit l'absence de limites, c'est la richesse infinie. L'argent, à ce titre, dans cette société, fonctionne comme une réserve de jouissance à venir. C'est ce qu'on a appelé un plus de jouir en perspective, puisqu'il permet de mobiliser toutes les techniques et tous les services existants pour en venir à ses propres fins. Puisqu'un enfant ne peut pas faire un enfant, eh bien il suffit qu'il se marie avec l'infirmière de son dermatologue blanchisseur de peau, et qu'il en fasse une machine à faire des enfants sans père, contre rétribution. Remarquez que c'était là un progrès, puisque auparavant, Michael Jackson s'était marié avec, je dirais, avec Elvis Presley, via sa fille. Permettez-moi de vous faire remarquer que se marier avec Elvis Presley, c'est là tout ce qu'il y a de plus normal quand on est un enfant chanteur prodige. Malheureusement, les deux mariés ont dû s'apercevoir qu'il y avait une erreur quelque part, et tout d'un coup, l'idylle a tourné court. En tout cas, ce qui est évident, c'est que toutes ces petites machines à contourner la loi qui fait qu'on est homme ou femme, blanc ou noir, adulte ou jeune, c'est que toutes ces petites machines à contourner la loi fonctionnent très très mal. Ce n'est que du bricolage qui révèle rapidement ses côtés défectueux et éventuellement plus ou moins sordides. Je parlais de l'infirmière, c'est Debbie Rowe, la seconde épouse de Michael Jackson. Donc l'infirmière dont je parlais déclarera laisser en cadeau, je cite, contre quelques millions de dollars, les deux enfants à la garde exclusive de Michael Jackson, abandonnant ses droits parentaux. Je parle là des enfants que Bambi promènera avec un masque sur le visage. Écoutez un peu ce que lui a dit Debbie, selon l'intéressé, selon l'infirmière elle-même. Voilà ce discours qu'elle aurait tenu à Michael Jackson. C'est raconté dans les lieux où elle cite ses mémoires. Je rappelle ses mémoires. Voilà. Moi, lui a-t-elle dit, je serai la mère de tes enfants. Et voilà le meilleur. Elle dit, je lui ai offert mon utérus en cadeau. C'est une chose que j'ai faite pour le rendre heureux. Je me suis rendu à l'office, c'est comme ça qu'on appelait la clinique médicale qui pratiquait ce genre d'opération. Ils m'ont inséminé comme on insémine une jument pour la reproduction. C'était très technique. J'étais en quelque sorte son pur sang. Mais ce n'est pas le sperme de Michael que j'ai reçu. J'ai été rémunéré pour ça. Et je savais bien que je devais disparaître un jour ou l'autre et que je ne reverrai plus jamais mes enfants. Mais bien sûr, évidemment, quelques temps plus tard, Déby a changé d'avis et a saisi le tribunal pour reprendre ses droits parentaux. Ça, ça me fait penser quand même qu'il y a un côté un peu sadien là-dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la formule que Lacan a commentée par ailleurs, que Sade avance dans Juliette, et qui est la formule, en gros, de la jouissance. Et il dit ceci, formule sadienne, donc, « Prêtez-moi la partie de votre corps qui peut me satisfaire un instant, et jouissez, s'il vous plaît, de celle du mien qui peut vous paraître aimable. » Eh bien, je crois que la différence là avec l'énoncé sadien, c'est que l'énoncé sadien, lui, propose une jouissance immédiate. Tandis que là, on a affaire non pas à la jouissance immédiate de l'objet, l'objet de l'autre, que je n'ai pas, que je peux consommer en quelque sorte. C'est la consommation ou la consommation immédiate de l'objet de l'autre. Là, c'est pas ça, c'est l'achat de l'objet de l'autre. Ou c'est l'achat ou la location de l'objet de l'autre. Donc vous voyez que on a affaire là à une formule en quelque sorte post-sadienne. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc voyez en tout cas comment ça se négocie. C'est des parties de corps contre parties de corps. Je lui ai donné une partie de mon utérus, il m'a donné son sperme, etc. etc. De tout cela, aucune dimension n'est relative à un quelconque amour que ce soit, tout au plus de la compassion pour l'autre, mais rien à propos d'un quelconque amour possible entre eux. Et dans ce marchandage d'organes contre rétribution, on pourrait dire que c'est sans fin. Parce que la tragicomédie continue en ce moment avec la mère de Michael Jackson. Puis ce sera le tour du père biologique, puisque le sperme ne venait pas de Michael Jackson, mais d'un autre. Il est d'ailleurs intéressant pour mon propos de savoir que ce père est aussi un ex-enfant star, celui qui avait joué le rôle d'Oliver Twist dans la comédie musicale Oliver en 1968 et qui s'était ensuite retiré des écrans. C'est un dénommé Mark Lester. Et il raconte ceci, je cite, « En 1996, Michael m'a demandé si je pouvais lui donner du sperme, et j'ai dit oui. Je lui faisais un cadeau. Aucun argent n'a été versé. C'était en quelque sorte que j'étais honoré de le faire. Il désirait si fort avoir des enfants. » Alors, vous voyez là que l'énoncé se situe tout de suite dans le domaine de la demande, c'est-à-dire pas loin de la négociation, même si cela est aussitôt suivi par une belle dénégation. Vous y voyez en fait Michael Jackson se présenter à son ami avec cette demande. « Ah, j'y pense. Tu n'aurais pas un peu de sperme en trop ?» Et la dénégation, c'est l'affirmation, ici incongrue, que c'est gratuit. C'est bizarre ici que ça sera gratuit, donc il faut le dire. Et donc la norme, c'est pas que ça soit gratuit. La norme, c'est que ça soit payant. Alors, vous pourriez multiplier les épisodes, ce que je ne ferai pas ici, mais vous verriez partout les mêmes mécanismes. Bricolage technique vendu très cher, qui ne marche pas très bien, et qui suscite des marchandages juridiques à l'infini, lesquels ont été jusqu'à impliquer le cheik du Bahreïn, l'héritier de cet état pétrolier, qui en l'occurrence a donné 7 millions de dollars au chanteur, en échange, un, de sa conversion à l'islam, de son engagement à enregistrer les disques, deux, trois, de l'écriture d'une biographie, et quatre, pour jouer dans une comédie musicale. Ce qui, évidemment, aussi, au bout de quelques temps, a également tourné court et a donné lieu à d'autres marchandages. Je crois que c'est là où se vérifie le fantastique aphorisme de ce grand auteur que je viens de relire cet été, qui s'appelle Cioran. Il parlait de la modernité, Émile Cioran. Et donc son aphorisme parlait de la modernité, mais je crois que cet aphorisme fonctionne encore mieux à propos de la postmodernité. Ça pourrait se dire tout simplement ainsi. Être postmoderne, c'est bricoler dans l'incurable. Être postmoderne, c'est bricoler dans l'incurable. Alors ce qu'il faut retenir de toutes ces promesses et de tous ces avatars techniques, c'est donc que ça ne marche pas. Ça me fait dire donc que le divin marché est une religion pour les imbéciles parce que ces promesses de satisfaction généralisée ne marchent pas. Les religions du livre dont j'ai parlé étaient beaucoup plus malines, si vous me permettez cette expression de dire malines pour les religions, parce que vous devriez attendre d'être mort pour savoir si ça marchait. Et là, évidemment, comme vous ne pouviez pas revenir, vous ne saviez pas si ça marchait ou pas. Mais là, donc, tout doit se réaliser du vivant de l'individu. C'est ça le principe de cette nouvelle religion. Tout doit se réaliser du vivant de l'individu. Vous n'avez plus du tout donc besoin d'attendre d'être mort pour savoir que ça ne marche pas. Vous le savez tout de suite, en quelque sorte. Et au cas où vous ne voudriez pas le savoir, il vous suffirait de regarder les images de Michael Jackson. On dirait, c'est pas facile, parce que plus ça venait, plus il se cachait. Et on comprend, malheureux, puisque ses promesses de s'affranchir des limites ont été un terrible fiasco, laissant des traces terribles sur son corps. Le quotidien britannique The Sun a révélé par exemple ceci. The King of the Pop, le roi de la pop, aurait été retrouvé dans un état physique alarmant. Je cite. Très amaigri, la star mesurait 1m77 pour 51 kg. Son estomac était complètement vide, rempli uniquement de comprimés. Sur son corps, des centaines de traces de piqûres, mais également des plaies à vif, des hématomes et des coupures. Sur son visage, les médecins auraient compté 13 cicatrices, preuve des nombreuses interventions de chirurgie esthétique. Plusieurs de ses côtes étaient brisées. Enfin, toujours selon The Sun, le chanteur était chauve et portait une perruque. Alors vous voyez là que pas mal des traits de notre époque y sont. C'est-à-dire le déni des limites dans tout ce que je viens de dire. Le déni des limites sexuelles, le déni des limites générationnelles, le déni des limites génétiques. L'argent comme plus de jouir en perspective, les bricolages techniques et les addictions chimiques. Voilà donc ce que les infos sur la mort de Michael Jackson donnent à propos des moments de sa mort. Je cite, revenu dans sa résidence du quartier résidentiel de Holmby Hills, au nord de Bel Air, épuisé après ses répétitions au Staples Center, en vue de sa prochaine tournée, This Is It, le chanteur ne trouvait pas le sommeil. Présent à son chevet, le docteur Murray, embauché par le promoteur des concerts REG Live, à la demande de la star, lui a donné un comprimé de 10 mg de Valium, un anxiolytique, à 1h30 du matin. À 2h, le médecin a administré 2 mg d'un autre anxiolytique, le Larosepam, en perfusion intraveineuse cette fois. Puis, à 3h, 2 mg d'un sédatif puissant, le Midazolam, toujours par voie intraveineuse. À 5 heures, à nouveau 2 mg de lorazépam. Et à 7h30, encore 2 mg de midazolam. Le chanteur, ne parvenant toujours pas à s'endormir, aurait supplié son médecin, je cite, de lui donner son petit lait. C'est ainsi qu'il surnommait le propofol, cette anesthésique puissant qu'on utilise en salle d'opération et qui est de couleur blanche. Je continue la lecture. Le docteur Murray tergiverse, hésite, mais il finit par céder. Et à 10h40 du matin, il administre toujours grâce au système de perfusion, qui se trouvait en permanence dans la chambre, 25 mg de propofol, qu'il dilue dans de la xylocaïne. À 10h50, il quitte la chambre pour se rendre aux toilettes et à son retour, quelques minutes plus tard, il constate que son patient ne respire plus. Il tente de le réanimer et lui injecte 0,2 mg de flumazénil. Et le rapport d'autopsie dit intoxication grave au propofol, d'autres substances ont contribué au décès, lorazépam, midazolam, diazépam, valium, lidocaïne, éphédrine, etc. Et lorsque les hommes du secours sont arrivés, ils ont cherché partout dans l'immense demeure le corps du roi de la pompe, ne pouvant croire que le corps du vieil homme de 70 ans environ qu'ils avaient suivi sous les yeux était le sien. Alors évidemment, ça fait beaucoup penser au portrait de Dorian Gray. Portrait de Dorian Gray, donc ce roman de Oscar Wilde, qui travaille sur ce que l'homme doit dénier lorsqu'il prétend garder une éternelle jeunesse. C'est un roman qui a été publié en 1890. Et beaucoup de films en ont été tirés, dont un film mémorable en 1945 avec George Sanders. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous le rappelle, Dorian Gray est un jeune homme d'une très grande beauté. Il a un ami, le peintre Basile, qui est obsédé par la beauté de Dorian. Ce qui le mène donc à faire le portrait de Dorian. Il fait ce portrait, et cela se révèle être la plus belle œuvre qu'il ait jamais faite, de sorte qu'il ne souhaite pas qu'il soit exposé à d'autres regards que le sien et à celui de Dorian, tellement beau qu'il veut la garder pour lui. Dorian fait alors la connaissance de Lord Henry, dit Harry, qui est un ami du peintre Basile. Et Harry commence à avancer toute une série de théories sur la jeunesse. Et Dorian se laisse séduire par ces théories. Et cet ami lui révèle en quelque sorte à lui-même, en lui parlant, de, je cite, un nouvel hédonisme. C'est dans le roman. Et il ajoute, ce nouvel hédonisme, vous pourriez en être le symbole visible. Avec votre personnalité, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Et Dorian se laisse tellement séduire par les théories de Harry qu'il en vient à en concevoir une sorte de jalousie à l'égard de son propre portrait peint par Basile. Et il se met alors à souhaiter que le tableau vieillisse à sa place pour que lui, Dorian Gray, garde toujours sa beauté de jeune homme. Et il dit ceci, « Si le tableau pouvait changer, tandis que je resterais ce que je suis. » Tel est donc son vœu. Et le plus étrange, c'est que ça marche. Pendant que Dorian se jette dans une vie dissolue, puisqu'il peut conquérir tous et tout grâce à sa beauté et à sa grâce, il constate que le tableau vieillit à sa place. Et Dorian finit par révéler donc le secret de son éternelle élégance à son ami Basile, le peintre de son portrait. Et celui-ci s'emporte furieux parce que son portrait peut être altéré du coup. Et il s'ensuit une bagarre entre eux, et Dorian le tue. Alors, Dorian court voir le tableau, et celui-ci porte encore plus les stigmates de la violence, de la vanité et de l'hypocrisie. Et c'est alors donc que, désespéré d'avoir tué son ami, Dorian enfonce le couteau qui a tué Basile dans le portrait, Et c'est alors qu'un vieil homme hideux est retrouvé mort en face du tableau qui a retrouvé sa beauté première. C'est assez saisissant. Et si je dis cela, c'est parce que c'est justement un vieil homme mort qui a été retrouvé dans l'hôtel particulier du jeune homme, Michael Jackson, ou de Bambi, le 25 juin 2009. Ce jeune homme qui se cachait, cet enfant sans limite, c'était en fait un vieil homme qui se voulait toujours jeune, et que beaucoup d'entre nous voulaient croire toujours jeune. La promesse donc qui était faite était évidemment une promesse mensongère, et la vérité que personne n'a voulu voir, fut pourtant révélée ce jour-là. Si ce jeune homme se cachait derrière ses portraits de popstar, c'est parce qu'il était vieux, infiniment plus vieux même que son âge véritable. Alors ici, on pourrait me dire, alors cet individu, ce type, qui déniait toutes les différences, celle de la sexuation, celle de la génération, celle de la couleur de la peau, ça ressemble fort à un pervers, sachant que le pervers est justement marqué par le déni, et qu'au cœur de son énonciation, on trouve cette trame discursive si parfaitement repérée alors par Octave Manoni lorsqu'il parlait de la perversion. Vous savez, ce qui est au cœur de l'énonciation perverse. Je sais bien, mais quand même. Je sais bien que je suis noir, mais quand même, je suis blanc. Je sais bien que je suis vieux, mais quand même, je suis jeune. Je sais bien que je suis homme, mais quand même, je suis femme, etc. Alors certes, ce discours a tous les traits de la perversion, mais je crois qu'il faut faire attention. J'ai cité le marquis de Sade tout à l'heure, mais je crois que Michael Jackson n'a rien du marquis de Sade, même s'il s'habillait souvent en petit marquis décadent, avec ses chemises à jabot, ses vestes à brandebourgs, ses perruques et son fameux gant de soie blanche. Si je parle du marquis de Sade, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur le divin marquis ces temps derniers. Ça doit d'ailleurs sortir dans un livre qui va être publié à mon retour en France. Et je peux vous dire qu'en dehors de ces quelques traits vestimentaires donc, qui pourraient éventuellement les apparenter, le divin marquis et le petit marquis, tous les opposent. Pourquoi? Parce que le divin marquis est un vrai pervers. Un vrai pervers, c'est celui qui a choisi la perversion contre la névrose. C'est un choix qui relève et qui révèle un certain courage de la part de celui qui se trouve ainsi devoir tenir cette position perverse contre la pente commune, celle de la névrose. Celle de la névrose où le sujet se soumet moyennant ce que les psychanalystes appellent la castration, l'injonction paternelle de renoncer à la mère. Ce pervers, ce vrai pervers, lui, fait alors un autre choix, le vrai pervers. Un choix beau, terrifiant et désespéré. C'est celui, en quelque sorte, de se placer dans la position de l'incastrable. Ben, c'est ça, Marquis de Sade, c'est l'incastrable. Or, pour l'essentiel, nous n'avons plus affaire aujourd'hui à ces pervers extraordinaires. Mais nous avons affaire à ceux que mon ami Lebrun, Jean-Pierre Lebrun, appelle les pervers ordinaires. C'est plus des pervers extraordinaires, c'est des pervers ordinaires. Or, cette perversion ordinaire d'aujourd'hui résulte d'un autre fonctionnement que celui de la perversion extraordinaire d'autrefois. Elle découle du fait que la fonction paternelle, je ne parle même pas du père, mais de la fonction paternelle, que la fonction paternelle, donc, n'étant plus aujourd'hui soutenue par les grands récits interdicteurs d'autrefois, ne peut plus s'exercer. Ces grands récits interdicteurs, ces commandements, si vous voulez, qui disaient « le père ne veut pas » et on alignait ces commandements, ces grands récits interdicteurs ont été remplacés aujourd'hui par une multitude de petits récits incitateurs qui promettent la satisfaction totale. Or, donc, sans ces fictions qui soutenaient telle ou telle figure du grand sujet interdicteur, il ne peut pas y avoir de fonction paternelle, même s'il y a des pères qui voudraient l'exercer. Je me permets de vous renvoyer là-dessus à l'analyse que j'ai développée à ce propos dans la partie qui s'intitule « Fiction et fonction paternelle à la fin du divin marché ». Donc ce qu'on pourrait dire ici, c'est que dans la perversion ordinaire, ce n'est plus à un incastrable que nous avons affaire, mais c'est à un incastré, ce qui est bien différent. Je veux dire qu'on n'a plus affaire à quelqu'un qui a obstinément refusé qu'on les lui coupe, s'il en a encore, au point que ça l'embarrasse, comme les chorégraphies de Michael Jackson le montrent quand il touche et qu'il s'étonne de voir qu'il y a quelque chose là, c'est parce qu'il n'y a plus personne, plus d'instance pour faire ce qui est de plus en plus apparu comme le sale travail, c'est-à-dire comme le travail symbolique. C'est pourquoi je crois, Michael Jackson, je le disais, ne cesse de se prendre l'entrejambe comme s'il s'étonnait, comme s'il n'en revenait pas d'avoir encore quelque chose là, dont il se demande bien à quoi ça pourrait servir. Entendons, ajoutons que le père de Michael Jackson, de Bambi, comme vous savez sûrement, en tant que fan de Michael Jackson, que vous êtes probablement, était beaucoup plus intéressé au prélèvement monétaire opéré sur ses enfants plutôt que d'y inscrire une quelconque entame symbolique. Bref, je vous donne là une indication que je crois importante. Il me semble que cette perversion ordinaire peut s'analyser comme la généralisation de ce que Freud appelait la perversion polymorphe de l'enfant. Je veux dire que dans le cas de la perversion ordinaire, l'enfant n'a pas fait la rencontre conflictuelle avec ses grands récits interducteurs qui supportaient le nom N-O-N du père et qui impliquaient donc cette rencontre une réorganisation phallique du discours marquée par le passage d'une économie de la jouissance à une économie du désir. Je veux dire que cette perversion ordinaire évoque le passage à la limite sur la scène du social et dans le cas de Michael Jackson, sur la scène tout court, la scène spectaculaire de la postmodernité, de la sexualité polymorphe caractéristique de l'enfant pré-oedipien. J'ajoute que ce que j'avance là n'est pas sans rapport avec la prédiction faite par Lacan en 1967. Parce que ça arrive des fois aux psychanalystes de faire des prédictions, et c'est d'ailleurs souvent extrêmement passionnant de les entendre. Les grands psychanalystes, ils font des prédictions. Et on est toujours surpris qu'après, ça ait dit quelque chose de ce qui allait arriver. Donc il y a une prédiction faite par Lacan en 67, juste avant 68, et c'était la prédiction de l'apparition prochaine dans le monde. C'est fait dans une allocution sur les psychoses de l'enfant. Allocution sur les psychoses de l'enfant, justement. Et ça parlait de l'apparition possible prochaine dans le monde d'un nouvel adulte qui ne serait autre qu'un enfant généralisé, c'est-à-dire un enfant pervers polymorphe prolongé. Alors on a en français un mot valise récent qui rend bien compte de ce bouleversement. Il s'agit d'un mot formé par un mot valise. Et ça donne donc ce mot valise. Donc c'est adolescence et adulte et le nouveau mot qui existe en français depuis quelque temps, qui me semble très significatif, c'est le mot d'adolescence. Et un mélange d'adolescence et d'état adulte qui est significativement apparu il y a quelques années. Alors, je voudrais terminer en disant que, certes, nous avons tous un peu de Michael Jackson en nous, comme disait le ministre, mais il n'empêche que lui avait sûrement quelque chose que nous n'avons pas. Je vous ai parlé de Dorian Gray, de la grâce qu'il avait, et je veux tout simplement dire que, après tout ce discours, j'ajouterai que n'est pas Michael Jackson ou Dorian Gray qui veut. Dans le portrait de Dorian Gray, Harry disait à Dorian, ses paroles décisives, « Vous pourriez être le symbole visible de l'hédonisme contemporain. Avec votre personnalité, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. » Eh bien, c'est au fond la même chose que l'on pourrait dire après coup de Michael Jackson, et c'est ce que je voudrais dire, et même lui dire maintenant. Vous avez été le symbole visible de l'hédonisme contemporain. Avec votre personnalité, il n'y a rien eu que vous n'avez pu faire. La preuve, c'est que vous avez même été jusqu'à réinventer la plus vieille affaire du monde. La marche. La marche. Or, c'est pas facile de réinventer la marche. Justement parce que la marche, c'est le propre de l'homme. Se lever, avancer n'importe où de préférence, c'est là la caractéristique même de l'homme. Vous vous souvenez de la parole christique qui était adressée à l'homme, « Lève-toi et marche », autrement dit, « avance ». Cet ordre était une condamnation. Vous êtes condamné à vous redresser et à marcher. Or, ce qui est très significatif, c'est que Michael Jackson, lui, il a réussi à défaire cette évidence. Michael Jackson, vous avez réussi à défaire cette évidence. Vous avez réussi à non plus vous lever et marcher, mais vous lever et reculer en avançant. Ou vous avez réussi à avancer en reculant. Et c'est là, bien sûr, où vous fûtes exceptionnel. C'est là où votre symptôme, c'est, je l'ai dit, c'était d'être noir et blanc, homme et femme, enfant et adulte. Votre symptôme, c'était donc de dénier toutes les différences constitutives de l'individualité. Et votre symptôme, ce fut de convertir ce symptôme, ce déni multiple, en acte créateur spectaculaire, défaisant la différence, par exemple, entre le oui et le non, entre, par exemple, avancer et reculer. Je rappelle que ce terme de symptôme est une invention tardive de l'enseignement de Lacan. Ce n'est plus alors, c'est 73-74, ce n'est plus alors le Lacan de la belle langue mallarméenne, de Mallarmé, qui parle. Ce n'est plus le Lacan de la belle langue. C'est le Lacan joycien. Joyce de symptôme, le symptôme. C'est le Lacan joycien, des glissades paronymiques, homonymiques, allitératives. C'est le jeu du signifiant. Et c'est pour cela, c'est justement pas facile à comprendre. C'est plus le Lacan de la langue, c'est le Lacan de la langue. La langue, la langue qui bégaye sur elle-même. Et en lisant le séminaire de Lacan sur Joyce, on finit par comprendre que ce mot de symptôme, vieux mot français, qui signifie autrefois lui aussi symptôme, est inféré à partir, vous allez voir que ça bégaye beaucoup, c'est inféré à partir de symptôme. Et c'est inféré à partir de Saint Thomas. Symptôme, symptôme, Saint Thomas. Pourquoi? Eh bien justement parce que Joyce expliquait qu'il avait été sauvé par le symptôme Saint Thomas, grâce à sa théorie de l'épiphanie, c'est-à-dire de l'apparition. Et de fait, si vous allez voir un peu chez saint Thomas, la théorie thomiste de la claritas, de ce qui apparaît, de la clarté, veut que l'objet révèle son essence en devenant la chose même. C'est ça l'épiphanie. C'est la chose qui apparaît dans son évidence. Et c'est justement cette apparition que Joyce chercher dans son écriture, l'apparition de choses encore jamais vues, encore jamais dites. Donc pour Lacan, le symptôme, Saint Thomas, est venu en quelque sorte au secours de Joyce pour transformer son symptôme c'était la forclusion, si la psychose, pour transformer donc la forclusion du nom du Père, transformer ce symptôme en œuvre d'art. Ce symptôme est alors devenu symptôme. Le symptôme, c'est ce qui correspond à une sorte de rédemption par l'œuvre d'art. Ce qui, selon Lacan, est une issue possible pour les psychotiques. Ailleurs, il dit que le symptôme est là où le symptôme se rebrousse en effet de création. Eh bien, je pense que cette différence entre symptôme et symptôme pourrait servir à instruire certaines formes de perversion ordinaire où, parfois, comme dans le cas de Michael Jackson, le symptôme peut se transformer en symptôme, c'est-à-dire en effet de création. Et quels effets de création? Puisque notre Bambi a réussi à réinventer la plus vieille affaire humaine, la marche. Son symptôme, ce fut donc de convertir son symptôme, c'est-à-dire ce déni qui affirme deux choses contradictoires en même temps, de transformer ceci en acte créateur. Et c'est ce qui nous a donné ce pas de danse extraordinaire qui s'appelle le moonwalk, où le danseur montre deux choses contradictoires en même temps, puisqu'il se dépasse à reculons, tout en créant l'illusion par ses mouvements corporels qu'il est en train de marcher vers l'avant. Ce paradoxe visuel, c'est-à-dire l'individu marche vers l'avant mais en se déplaçant vers l'arrière, donne l'impression qu'il flotte. Il échappe à la gravité. Ce qui donne un contenu quasiment chorégraphique à l'expression qu'avait employé Charles Mellement pour parler de la postmodernité, un monde sans gravité, un monde où l'enfant est celui qui a réussi à échapper à la gravité de l'adulte. Eh bien, figurez-vous que je verrais d'un assez bon œil qu'un étudiant vienne un jour me proposer de faire une thèse sur le moonwalk de Michael Jackson, sur le moonwalk et sa généalogie. On y verrait que la technique utilisée pour donner l'illusion de la marche en avant, alors qu'on recule, avait déjà été utilisée par des mimes, tels que par exemple le mime Marceau, dans ce qu'il appelait la marche contre le vent. Mais la marche du Marceau, de Marcel Marceau, restait cependant statique. tandis que le mouvement de danse moonwalk a consisté à ajouter un déplacement vers l'arrière qui a renforcé l'irréalité du mouvement. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu ce que c'est que le moonwalk, mais je vous engage, à moins qu'il y ait parmi vous déjà des gens qui savent le faire et dont je voudrais qu'ils me le fassent tout de suite sur le moonwalk. En tout cas, ceux qui savent pas le faire, je vous préviens que tout de suite, c'est d'apparence facile, mais c'est en fait une exécution extrêmement difficile, et c'est même très difficile à analyser, puisque la différence entre une version réussie du moonwalk et une version, disons, lourdingue, ratée, pesante, bien que très très visible, immédiatement visible à l'œil nu, peut même se révéler extrêmement difficile à l'analyse chorégraphique. En fait, ce mouvement a toute une histoire. Il a deux histoires. La première, donc je l'ai dit, elle est due au mime Marceau, lorsqu'il travaillait avec son maître, qui s'appelle Étienne Decroux, qui est le plus grand maître de mime de l'Occident du XXe siècle. Étienne Decroux avait en fait travaillé avec beaucoup d'acteurs, dont Jean-Louis Barrault, cet acteur très connu, acteur de théâtre et acteur de cinéma, qui dirigeait par exemple l'Odéon, le théâtre Odéon, pendant les glorieuses années 68, et il a travaillé aussi donc avec Marcel Marceau, sur les différentes actions que pouvait produire le corps humain lorsqu'on sépare la tête, le tronc, les jambes, les mains, et qu'on les fait travailler séparément. Si je vous dis ça, c'est pas comme ça, une nubie, c'est tout simplement parce qu'il y a une rencontre entre le mime Marcel Marceau et Michael Jackson, et qu'il y a même eu un projet de spectacle entre eux. Et c'est extrêmement intéressant, ça n'a pas donné, mais la rencontre est extrêmement intéressante, vous pouvez la voir sur YouTube. Et la deuxième source du moonwalk vient des gamins de la rue. Et c'est là que Bambi l'a repris et l'a retravaillé, comme il le rapporte dans plusieurs interviews. Il y en a une, par exemple, où il dit « C'était un pas de breakdance très sautillant que les enfants noirs avaient inventé sur les trottoirs des ghettos. Alors je me suis dit, je vais l'essayer. » Et ça a marché, c'est le cas de le dire, ça a marché. Trois gamins m'ont appris, ils m'ont appris la base, et je me suis entraîné tout seul. Et dans une autre interview, avec le révérend Jess Jackson, il dit « Je traversais Harlem en voiture vers la fin des années 70, début des années 80, et je voyais ces enfants qui dansaient dans la rue, notamment un qui glissait en arrière. Il faisait ce que j'ai appelé alors une danse à illusion. J'ai gardé ce pas en mémoire visuellement. Je suis monté dans ma chambre et je me suis mis à le reproduire, à danser, à créer, à perfectionner. » Michael Jackson exécutera donc le moonwalk pour la première fois en 1983 sur Billie Jean. Et cela deviendra au cours du temps sa signature. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, outre le moonwalk, Michael Jackson pratiquait également sur scène d'autres pas de danse décalés du moonwalk, comme le sidewalk, l'airwalk, le turnwalk, et un autre pas de danse qui s'appelle le lean, ou anti-gravity lean, c'est-à-dire le penché anti-gravité. Vous voyez bien qu'on retrouve à nouveau cette image de la gravité, pour être contre la gravité, pour s'opposer à la gravité. C'est-à-dire un pas de danse particulier, qui consiste à se pencher en avant à 45 degrés et à pouvoir se relever ensuite sans difficulté apparente. C'est ça, là, c'est un autre symptôme assez saisissant, puisqu'il semble là aussi donc remettre justement en question les lois de la gravité, justement comme dans le monde enfantin, comme dans le monde enchanté, comme dans le monde sans gravité de Peter Pan, par exemple, qu'affectionnait beaucoup Michael Jackson. Peter Pan, on aurait pu l'appeler Bambi, on aurait pu l'appeler Peter Pan, parce que Peter Pan était aussi surnommé le petit garçon qui refuse de grandir. Alors je vais finir en vous montrant quelques-uns de ces mouvements, que bien sûr vous connaissez peut-être, mais que je vous invite maintenant à regarder avec un nouvel œil. Voilà, donc il est clair que Michael Jackson était fou. C'était un fou génial, un fou créateur, un fou qui a su convertir le symptôme de notre époque, donc en symptôme visible, en quelque sorte, et qui réalise donc ce que Freud disait des fous, les visionnaires, les hallucinés, etc., ont de tout temps joué un grand rôle dans l'histoire de l'humanité, à travers des mouvements culturels et autres, etc. Voilà, donc j'espère que je suis parvenu à justifier le titre que j'avais donné un peu intempestivement à la suite de la Caipirinha que j'avais lue. Je veux dire que si c'était à refaire, je le referais, mais avec cette nuance. À la place de Bambi de symptômes, je dirais Bambi du symptôme au symptôme. Peut-être que j'aurais pu découvrir ça tout de suite si j'avais bu deux Caipirinha à la place d'une. Voilà, je vous remercie.